Upload UTC, l'Université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Crozat et Audrey Guélou.
La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Le plus souvent, nos chefs invisibles ne connaissent pas l'identité des autres membres du cabinet très fermé auquel ils appartiennent. Ils nous gouvernent en vertu de leur autorité naturelle, de leur capacité à formuler les idées dont nous avons besoin, de la position qu'ils occupent dans la structure sociale. Peu importe comment nous réagissons individuellement à cette situation, puisque dans la vie quotidienne, que l'on pense à la politique ou aux affaires, à notre comportement social ou à nos valeurs morales, de fait, nous sommes dominés par ce nombre relativement restreint de gens, une infime fraction des 120 millions d'habitants du pays, en mesure de comprendre les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Ils contrôlent l'opinion publique, exploitent les vieilles forces sociales existantes, inventent d'autres façons de relier le monde et de le guider.
Bonjour à tous, on vient d'entendre les premiers mots du livre Propaganda d'Edouard Bernays, lu par Eric Erson Macarel, que l'on peut retrouver sur le site sixthtrid.fr. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec ces premiers mots, c'est qu'on n'est pas ici dans une théorie du complot, même si on peut avoir l'impression avec une lecture superficielle, puisqu'Edouard Bernays ne dénonce pas ce qu'il décrit ici, mais au contraire, il l'appelle de ses voeux, et d'ailleurs il va travailler sa vie durant à faire advenir ce dont il parle ici, c'est-à-dire le contrôle du comportement des masses, et bien que ce soit à des fins politiques ou publicitaires, pour susciter des comportements de consommation. Alors, on va le voir, il y a un lien assez fort entre cette question du contrôle politique, de la publicité, et puis les mouvements centralisateurs et décentralisateurs liés à l'Internet. Alors, bienvenue sur donc cette émission spéciale du cours de WE1 SI24, puisque donc on est invité par Isabelle Caillot. Bonjour Isabelle, à faire une émission complémentaire.
Bonjour à toutes et tous.
Et donc je suis Stéphane Crozat, on est également accompagné d'Audrey Guélou et de Léo. Comme d'habitude, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler redécentralisation d'Internet. On va aborder ça en quatre parties. Dans la première partie, on va revenir sur le fonctionnement général d'Internet et sur le fonctionnement général de l'informatique, pardon, et son comportement, on va dire, centralisé à l'origine. Puis dans une deuxième partie sur le mouvement décentralisateur qui a été opéré par Internet, via Internet. On va parler du mouvement de recentralisation qui a été opéré par les GAFAM et enfin de redécentralisation initiée notamment en France par Framasoft.
Pour approfondir le cours d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver des supports de cours et puis des exercices sur librecours.net. Les cours émissions, ce cours pourra ensuite être réécouté sur Peertube, sur l'instance aperi.tube. Et puis tout le long du cours, vous pouvez poser vos questions via l'outil de messagerie instantanée Mattermost, donc à l'adresse team.picasoft.net, équipe SI24P21 sur le canal Questions. Et puis également sur Twitter et Mastodon avec le hashtag Upload, je ferai remonter vos questions à Stéphane.
Bon, donc c'est parti. Donc première partie, on va parler client-serveur et donc on va dire ce qui pouvait être une approche centralisée à l'origine. Alors d'abord, on peut revenir un petit peu sur des choses dont on a parlé dans les cours précédents, mais fondamentalement, on peut se demander un serveur, puisque ça a ce nom, ça sert quoi ou ça sert à quoi d'abord? Eh bien, un serveur, ça sert à servir. J'ai prévu de commencer de façon assez simple. Donc si on veut le reformuler autrement, autrement, eh bien, d'un point de vue un petit peu plus informatique, eh bien, un serveur, en fait, ça sert à envoyer de l'information quand on lui en demande. Donc, qui lui en demande ? Eh bien, en général, enfin, du coup, on appelle client la machine qui demande de l'information à un serveur. On a donc bien deux machines, hein, un client qui demande des choses et un serveur qui lui donne des choses. Et en général, un serveur sert plusieurs clients et on commence à voir arriver cette origine centralisatrice, c'est-à-dire centralisée, c'est-à-dire qu'au départ, eh bien, on a une seule grosse machine qu'on appelait un mainframe, hein, un ordinateur central, eh bien, qui a pour objectif de servir, de donner de l'information à plein de toutes petites machines que l'on appelle des terminaux. Alors, cette origine, hein, on la trouve aux origines même de l'informatique, donc après-guerre, et avant l'arrivée d'Internet. Alors, je prends une petite citation de Christophe Mazzouti dans Affaires privées, qui nous parle de cette époque des années 60. Donc, dans les années 60, on les appelait, les serveurs mainframe, les ordinateurs centraux en bon français. De tels ordinateurs mêlaient haute performance et capacité à traiter de l'information en provenance ou à destination de plusieurs dispositifs. Des mémoires sur bande magnétique, situées dans des armoires équipées de lecteurs, cartes perforées, placées dans des trieuses, terminales centrales ou autres terminaux distants, imprimantes, etc. Chacune de ces machines nécessitait une pièce dédiée, un personnel hautement qualifié pour créer des programmes et un personnel beaucoup moins qualifié pour opérer les tâches courantes, notamment la perforation des cartes en fonction des bordereaux de saisie, etc., etc. Je m'arrête là, mais cette petite description, hein, évidemment, pour les plus jeunes d'entre vous, imaginez qu'un ordinateur prenne la taille d'une pièce quand aujourd'hui ça tient dans une poche, c'est pas forcément évident, mais ça explique également pourquoi à l'origine, eh bien, on a ce principe centralisé, c'est-à-dire qu'on a un coût très très important dans le traitement de l'information, et donc évidemment ce coût très très important, eh bien, on va le faire porter, on va le faire porter à un seul endroit, et ensuite on va faire en sorte qu'effectivement le maximum de personnes en profitent. Alors, un petit peu plus tard, quand vont arriver les premières applications de réseau, au moins en France, eh bien, le modèle qui va dominer avant l'arrivée d'Internet, c'est celui du Minitel. Et de la même façon, eh bien, le modèle du Minitel va s'inspirer de cette logique-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des serveurs qui vont avoir, le premier d'entre eux était un serveur d'annuaire, et donc, du coup, on va avoir de tout petits ordinateurs, pour l'époque, hein, qui vont être installés chez les particuliers, qui vont ne savoir faire qu'une chose, c'est se connecter à ce serveur et lui demander de faire des choses. Mais l'ordinateur dont on dispose chez soi, le terminal Minitel, eh bien en fait, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire d'autre que communiquer avec le serveur. Donc, il y a un clavier pour envoyer des informations, un écran pour récupérer les informations. Mais lui-même, en fait, en quelque sorte, eh bien, il n'a pas de compétences propres, on pourrait dire, quoi, ou très peu. Voilà, peut-être pour conclure cette partie et introduire un peu ce qui va se passer ensuite. Donc, on a une origine historique qui est donc une approche centralisée de l'informatique. Et on peut déjà se rendre compte que, eh bien, en fait, utiliser un serveur, utiliser un service, eh bien, c'est utiliser en quelque sorte l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on retrouve, hein, que ce soit dans les mainframes du départ, dans les services Minitel, et puis on va le voir, et bien sûr également aujourd'hui avec Internet. Eh bien, à chaque fois qu'on utilise un service, en fait, on se connecte à une machine qui appartient, en général, à une autre personne, sauf si vous êtes le propriétaire de votre serveur, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en général, à une autre personne, et on lui demande de faire des choses pour nous. Voilà. Donc l'idée générale, hein, c'est qu'on se connecte à une autre machine, on lui demande de faire des choses pour nous, alors on va le voir, du coup, dans ce cas-là, il y a éventuellement des contreparties.
La vie.
C'est déjà un fait, la télévision peut apporter l'enseignement programmé à domicile. Demain, elle offrira sur un écran de taille illimitée des programmes choisis à la carte. Même seul chez soi, on pourra préférer les jeux de société aux jeux de patience, en prenant comme partenaire soit un ami lointain, soit un ordinateur. La télévision sera le super catalogue des ventes par correspondance. Mieux encore, le simple geste d'un doigt sur un bouton fera connaître le choix de la cliente et tiendra lieu de commande. Journaux, lettres, télégrammes, contraventions apparaîtront ainsi sans retard. Les textes pourront à volonté être reproduits sur papier pour être consultés et conservés.
fait, on peut se demander si le mot télévision, eh bien celui-ci correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre, des images et des sons que l'on peut envisager pour l'avenir. Télévision, pour nous, est associée à une idée d'abord de radiodiffusion, transmission par onde. Télévision aussi implique une certaine passivité. Tout ce que vous voyez, au contraire, arriver par le canal de ce câble, implique une participation active de chacun. Au fond, on ne trouve pas de mots. Audiovisuel, matériel audiovisuel ne marche pas. J'attends que des professionnels de la langue trouvent un mot. Mais à mon avis, c'est ce mot nouveau qui définira très bien les possibilités extraordinaires de circulation des images et des sons.
On vient d'entendre un extrait de l'émission Eureka qui a été diffusée sur l'ORTF en 1969, donc qui est la date de naissance d'Internet. C'était une forme d'anticipation d'Internet. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir voilà, cette idée de passivité de la télévision qui, au contraire, serait donc substituée par une participation active de chacun, donc à une forme d'audiovisuel, donc dans cette forme d'Internet. Alors, Stéphane, c'est vrai que on peut dire donc que lorsqu'on est client même sur Internet, eh bien, on est tout de même actif sur Internet, puisque on demande, eh bien avec des requêtes, on demande à un serveur de nous servir quelque chose. On interagit donc avec ces serveurs de façon active. Alors, sans arriver trop vite à la suite du cours, mais simplement, est-ce qu'il y a une forme d'activité encore plus approfondie? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de devenir soi-même un serveur ou est-ce qu'il faut des droits particuliers, une autorisation, une licence particulière pour servir des clients sur Internet?
Alors en effet, tu anticipes pas mal sur la suite, Audrey. Donc on va y arriver petit à petit. Mais en effet, c'est intéressant. En tout cas, cette idée de actif passif, puisque in fine, il y a eu cette idée qui est arrivée lorsque le numérique et le web est arrivé, qu'effectivement on allait enfin devenir actif. Sauf qu'à un moment, eh bien actif, ça peut être il y a des degrés très très différents dans l'activité. Si effectivement actif, c'est cliquer sur le next pour avoir la prochaine vidéo. Ça reste une activité qui n'est pas très très loin de celle qu'on avait avec une télécommande de télévision. Alors évidemment, il y a toute une palette entre les deux. Et comme on va le voir à la fin, plutôt à la fin de ce cours, eh bien, in fine, effectivement, on peut être soi-même celui qui installe, qui organise et qui sert l'information. Et là, effectivement, on peut considérer peut-être qu'on est dans une des phases les plus actives. Je pense que c'est par là que tu voulais m'emmener, n'est-ce pas? Sinon, tu auras une autre question à pouvoir poser. Alors, comme on l'a vu dans la première partie, hein, on peut considérer que l'origine des premiers réseaux numériques, eh bien, est centralisée. On peut également voir que les premières visions, en tout cas celles qui nous sont restées les principales, peut-être les plus exemplaires, sont aussi des visions relativement centralisées, que ce soit celle de la bibliothèque d'Alexandrie, celle également qu'on a déjà mentionnée dans le cadre de ce cours du Mundaneum de Paul Hautelet. Dans les deux cas, on va dire, hein, et dans un certain nombre d'autres cas, eh bien, l'enjeu, c'est de rassembler au même endroit un maximum d'informations afin, eh bien, lorsque l'on cherche quelque chose, en quelque sorte, de savoir où la trouver, de la trouver rapidement. Alors, les inconvénients de ça, on les connaît. Hein. Alors, du coup, pour la bibliothèque d'Alexandrie, bah, le problème, c'est qu'à un moment, ça peut brûler, quoi. Et donc, si on a tout mis au même endroit et que ça casse, eh bien, on n'y a plus accès. Et l'autre inconvénient, on l'a vu également avec le Mundaneum de Paul Hautelet, c'est que quand on commence à avoir beaucoup d'informations, trop d'informations, et bien justement on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'a plus un seul espace physique on n'a plus assez de tiroirs en quelque sorte pour tout rentrer. Alors, donc en 1969, comme nous l'a rappelé Audrey avec l'extrait précédent, eh bien arrive le projet ARPANET aux États-Unis, dont l'enjeu est de créer un réseau, mais justement un réseau décentralisé. Alors, on va voir petit à petit ce que cela veut dire, mais en quelques mots, l'idée est que plutôt que d'avoir un gros ordinateur qui va servir, par exemple, l'ensemble des États-Unis, alors ça aurait pu être un ensemble de gros ordinateurs gérés par une même institution, plus ou moins au même endroit, etc., on serait resté dans une logique centralisée, eh bien l'idée ici est qu'on va plutôt placer plusieurs ordinateurs. Alors au début, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre dans quatre universités, mais on va passer plusieurs ordinateurs à des endroits différents, et surtout ce qui est important, c'est que ces gens vont avoir une gestion autonome de chacun de ces ordinateurs. Ça va être des ordinateurs en quelque sorte, c'est eux qui vont choisir leurs ordinateurs, c'est eux qui vont choisir la façon dont ils vont les faire fonctionner, et ce que l'on va standardiser, puisqu'il faut un standard standard quand même pour que ça fonctionne, c'est uniquement le protocole de communication. Donc on l'a vu encore une fois dans le cadre des cours précédents, mais le mécanisme d'adressage, la façon dont un ordinateur s'adresse à un autre ordinateur, la façon dont il lui transfère de l'information, le découpage en paquets, etc. etc. On va pas revenir là-dessus ici, mais c'est l'idée générale, c'est que plutôt que de définir, de tout chercher à tout mettre au même endroit et d'exercer en quelque sorte un contrôle sur un ordinateur qui servirait l'ensemble des États-Unis ou voire le monde entier dans le projet ARPANET, eh bien on va plutôt imaginez d'emblée un réseau de points autonomes qui chacun eh bien, auront en quelque sorte la liberté de faire un petit peu ce qu'ils veulent à condition de respecter le protocole de communication. Alors on peut se demander d'où vient cette idée, cette idée un petit peu particulière qui n'est pas forcément encore une fois l'idée dominante. Eh bien on peut lui trouver une origine assez étonnante en quelque sorte, ou en tout cas un couple d'origine assez étonnante. En fait il vient alors quelque chose dont en général quelque chose qu'on sait plus en général, c'est qu'il vient de la guerre froide et du risque nucléaire, c'est-à-dire qu'à un moment une des réflexions de la part des militaires, c'est de dire eh bien évidemment si on a un point névralgique, c'est un peu le syndrome de la bibliothèque d'Alexandrie dont j'ai parlé, si on a un point névralgique, eh bien évidemment si une bombe nucléaire tombe dessus, ou voilà, d'une façon générale s'il y a un problème avec ce point névralgique, eh bien on peut perdre l'ensemble de notre capacité de communication. Donc pour ne pas prendre le risque, eh bien on va répartir les centres névralgiques, donc du coup il n'y en aura plus un seul, il y aura plein de centres, et du coup là il faut incapaciter chacun de ces centres et ça devient très difficile. Mais en fait c'est pas la seule origine de cette vision, elle se couple à la même époque avec des alliés inattendus peut-être pour les militaires, mais que sont les mouvements hippies, et donc l'idée générale, effectivement, que eh bien on n'a pas envie d'avoir une autorité centrale qui va contrôler l'ensemble de l'information ou l'ensemble des façons de faire. On a plutôt envie d'imaginer des communautés, en tout cas les gens s'imaginent vivre et s'organiser en communautés autonomes les unes vis-à-vis des autres. Et donc voilà, ce truc un peu bizarre d'imaginer des hippies et des militaires main dans la main va conduire au modèle décentralisé d'un Internet. On peut retrouver cette histoire intéressante dans « Aux sources de l'utopie numérique » de Fred Turner aux éditions CF Éditions. Alors voilà, voilà un petit peu l'idée générale. Donc Internet va donc se poser sur un modèle décentralisé. Donc quelques points, quelques conséquences. Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de chef d'Internet. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire toi, tu as le droit d'être sur Internet. Toi, tu n'as pas le droit d'être sur Internet. En tout cas, il n'y a pas une seule personne. De la même façon, je ne vais pas revenir dans tous les détails de ce que l'on a vu précédemment, mais on va dire que le premier point pour être sur Internet, c'est disposer d'une adresse IP. Et là, encore une fois, eh bien, selon les pays, selon les zones géographiques, on va avoir différentes organisations qui sont en cause. Donc même si on était exclu par exemple de la possibilité d'ouvrir, de se connecter à Internet aux États-Unis, quand je parle de se connecter ici, c'est de créer un serveur et d'offrir des services par exemple depuis les États-Unis, eh bien on pourrait le faire depuis une autre zone géographique, une autre zone d'autorité. Même chose, on l'a vu pour les noms de domaine et également pour tout un tas de standards. Encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais l'idée importante à retenir, c'est que eh bien, il n'y a pas une seule organisation qui décide qui a le droit de proposer des services sur Internet. Voilà, eh bien, je vais même en terminer pour cette partie-là, et donc donner la main à Léo.
Edward Snowden vient juste d'avoir 30 ans. Ce jeune homme qui a été espion toute sa vie, qui croit dans les valeurs des États-Unis d'Amérique, qui croit dans la constitution des États-Unis d'Amérique, qui croit qu'il faut légitimement combattre les ennemis intérieurs, extérieurs, etc., a fait ce choix de vie, a fait ce choix d'abandonner son pays, sa maison, ses amis, sa famille, sa petite amie, son boulot, son salaire, pour nous montrer quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce qu'Edward Snowden essaye de nous faire comprendre dépasse tout ce que nous étions avant pouvait imaginer de pire lorsqu'on se faisait traiter de paranoïaque, de conspirationniste, de tinfoil hat, etc., etc. Et donc,
On vient d'entendre Jérémy Zimmermann nous parler d'Edward Snowden lors d'une conférence de la Quadrature du Net et de la FFDN au Capitole du Libre en 2013. C'est une vidéo disponible sur tu.porteimaginaire.org en licence CC BY-SA. Donc en effet, dans cet extrait, on entend Jérémy Zimmermann nous parler de cet homme Edward Snowden qui est, donc pour rappel, un lanceur d'alerte américain qui est un ancien employé de la NSA et puis qui avait rendu public en 2013 des preuves de l'existence de programmes de surveillance de masse aux États-Unis. Et puis depuis, il s'est exilé en Russie, où il vit depuis ses dernières révélations. Alors voilà, on a un Internet décentralisé, comme tu nous l'expliquais, Stéphane, mais on comprend aussi donc qu'il y a des agences comme la CIA, la NSA, qui peuvent tout de même en surveiller les communications. Alors on peut se poser la question de savoir comment cela est possible, malgré le fait qu'Internet soit décentralisé. Et puis Isabelle, si tu as une seconde question par la suite... On donne la main également.
Alors, on va le voir. En fait, il y a probablement deux questions dans ta question. Sur la première, comment c'est possible ? On pourrait se la poser autrement, c'est-à-dire pourquoi ce serait impossible en quelque sorte. Et donc, en tout cas, dans la construction au départ d'Internet, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un modèle décentralisé, mais en revanche, les communications ne sont pas chiffrées. C'est-à-dire que toute la communication que l'on mène sur Internet, et c'est encore le cas aujourd'hui d'un certain nombre de grandes applications comme la majorité des mails que l'on utilise, on a vu apparaître le HTTPS, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pendant plusieurs dizaines d'années, eh bien en fait l'essentiel du trafic n'est pas chiffré. Ça veut dire quoi que l'essentiel du trafic n'est pas chiffré ? Ça veut dire que lorsque vous envoyez une requête à un serveur, comme on l'a vu précédemment, quel que soit ce serveur, eh bien vous lui posez une question, et cette question en quelque sorte n'importe qui, d'un tout petit peu intentionné et en capacité sur le réseau, n'importe qui va pouvoir la lire. Et vous allez recevoir une réponse, et cette réponse, n'importe qui va pouvoir la lire. Alors en fait, avant les problèmes de surveillance par les États, eh bien ce sont les applications économiques qui ont amené à changer ça, puisque évidemment, si votre question c'est si ce que vous transmettez c'est par exemple votre numéro de carte bleue ou votre code de carte bleue, eh bien il était nécessaire là que ce soit protégé, et donc c'est là que les mécanismes de chiffrement se sont mis en place. Mais donc je vais pas rentrer pour le moment plus longuement là-dedans. Mais donc à l'inverse, en tout cas on peut considérer qu'au départ sur Internet, eh bien en quelque sorte tout le monde pouvait voir toute l'information. En revanche, ce qui rend les choses délicates en quelque sorte, c'est que si on a un modèle vraiment décentralisé, on ne sait pas bien où chercher l'information. Donc du coup, on va dire que c'est possible de savoir qui communique avec qui, mais il n'est pas facile de surveiller un réseau complexe, extrêmement décentralisé, puisque in fine, si tu as des activités subversives d'un point de vue de l'État américain, Audrey par exemple, et donc que ce que tu communiques sur Internet intéresse l'État américain, encore faut-il savoir d'où tu communiques, avec qui tu communiques, etc. Donc il ne va pas être si facile que ça de te surveiller. Et on va le voir à partir de la seconde partie, là, dans laquelle on arrive. À partir du moment où les échanges commencent à être très centralisés, eh bien, du coup, cette problématique de surveillance, elle devient beaucoup plus facile. Puisque, in fine, si j'ai envie de te surveiller, en quelque sorte, si tu es une utilisatrice massive de Google, eh bien, il suffit que je surveille les serveurs de Google. Si c'est pas facile de surveiller les serveurs de Google, par exemple, parce qu'ils mettent en place du chiffrement, comme je l'ai dit, eh bien, il suffit de demander d'abord peut-être gentiment à Google s'il veut bien me donner les informations déchiffrées. Et puis s'il ne le veut pas gentiment, eh bien, je suis le gouvernement américain et donc je peux lui imposer. Ou je peux concentrer une activité de cryptographique, par exemple, et de surveillance à un endroit très particulier qui fait que du coup, je vais savoir concentrer mes efforts. Donc en fait, pour conclure cette longue réponse à ta question, mais effectivement qui va vraiment introduire la suite, c'est que en quelque sorte, plus c'est décentralisé et plus c'est difficile à surveiller, plus c'est centralisé, plus c'est facile à surveiller. Alors, a fortiori, on l'a vu, pour le gouvernement américain, eh bien, il est plus facile de surveiller, évidemment, les entreprises américaines sur lesquelles il est capable d'exercer légitimement un pouvoir.
Merci Stéphane, merci beaucoup. Alors, j'ai Sacha qui te demande sur Mattermost si, en réponse à cette surveillance, on a donc l'existence des réseaux tels que Tor, afin de dissimuler des informations.
Alors, là, effectivement, on bouge un petit peu, on anticipe encore plus sur la suite, mais encore une fois, c'est absolument pas un souci, au contraire, j'essaierai de refaire les liens. L'idée de Tor, c'est que à partir du moment où, alors du coup c'est en quelque sorte relativement indépendant de cette question de la centralisation ou de la décentralisation, au sens où, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous communiquez sur Internet, eh bien, si vous communiquez sans chiffrement, vous communiquez de façon audible pour tout le monde. C'est un petit peu hein, l'image qu'on prend, comme si vous communiquez avec quelqu'un dans la rue en criant hein, « Vas-y, passe-moi ça !» Ouais, ok, bon, si c'est « Passe-moi le sel », c'est pas très grave, mais si c'est « On se retrouve demain à la manif pour aller casser tel édifice public, par exemple », eh bien, tout le monde va vous entendre, hein, d'accord ? Donc, le « tout le monde » veut dire quelqu'un qui peut le répéter, la police, quelqu'un qui est d'accord avec vous, peu importe. Mais donc, l'idée générale, c'est que, évidemment, hein, j'ai pris un exemple là, plutôt négatif, mais on pourrait prendre un exemple positif du type « Je suis un journaliste et si je crie dans la rue, j'ai des informations super confidentielles sur LVMH, je vais les faire tomber demain », eh bien, vous l'avez crié dans la rue. Alors, comme je l'ai dit, les techniques de chiffrement permettent de faire en sorte qu'on continue de crier dans la rue, mais par contre, ce qu'on crie n'est intelligible que par la personne à qui vous vous adressez. Hein, donc, je m'adresse à Audrey dans la rue, je crie, mais je crie « chloubimimimimama ». Voilà, donc personne ne comprend rien, sauf Audrey qui a le code, et donc elle peut comprendre ce que j'ai raconté. Donc ça fonctionne très bien pour masquer les conversations. En revanche, il reste un problème, c'est que tout le monde dans la rue voit que je communique avec Audrey. Alors, dans l'absolu, là, on est collègues, on pourrait juger que c'est pas extrêmement... voilà, que c'est pas très problématique. Mais si, par exemple, je suis au contraire un activiste surveillé, ou Audrey, une grande journaliste dont on peut imaginer qu'elle a des informations importantes et qu'elle discute avec une personne, eh bien, on va pouvoir, par l'analyse de l'ensemble de ces relations, c'est-à-dire en sachant qui communique avec qui, eh bien, on va pouvoir en déduire un certain nombre d'éléments sur... Enfin, voilà, on va pouvoir, en quelque sorte, faire une partie de l'espionnage, encore une fois, quel que soit le sens dans lequel on souhaite le faire, uniquement en sachant qui communique avec qui. Alors, c'est là que le réseau Tor intervient. Le réseau Tor va intervenir, en quelque sorte, en servant d'intermédiaire, je vais le faire de façon schématique, mais en servant d'intermédiaire pour faire en sorte que, eh bien, plutôt que de parler directement à Audrey dans la rue, eh bien, je vais parler à un intermédiaire qui s'appelle Tor. Alors Tor, tout le monde sait qu'il sert à transmettre des messages secrets, mais lui-même, en quelque sorte, faudrait que je rentre plus dans les détails pour expliquer, mais lui-même, en quelque sorte, n'est pas capable de dire qui communique avec qui. Donc Tor va passer mon message avec Audrey, mais imaginez qu'il ait les yeux bandés, donc en quelque sorte, il ne sait pas qui lui a donné le message, il ne sait pas exactement à qui il le remet. Donc in fine, ça permet donc je conclue là-dessus, mais donc le réseau Tor permet in fine de masquer de masquer qui communique avec qui. Et voilà, j'ai terminé la réponse à la question. Alors d'habitude c'est moi qui enchaîne. Tu avais pas une autre question liée à ça, Isabelle? Non, j'ai répondu d'avance, c'est ça?
On en a qui viennent d'arriver là sur okay, Mattermost.
Continuons un peu alors.
Je t'en prie, Isabelle. Oui, donc c'est Jacques qui nous dit quand on prend le cas de Google, qui est une entreprise américaine dont la sur laquelle le gouvernement américain peut faire pression, comment les gouvernements français ont-ils la possibilité de faire de l'espionnage ? Question Jacques.
Alors oui, du coup tu cherches, du coup si j'ai bien compris la question c'est, tu te demandes si nous aussi, si la France a aussi les moyens de faire de l'espionnage, étant donné que l'ensemble des informations sont aux États-Unis. Alors j'avoue que je me suis rarement posé la question dans ce sens-là. Je vais commencer à répondre à la question que je pensais que tu allais me poser au départ et voir si ça m'amène à la tienne. En tout cas, on pourrait se demander d'abord, c'est comment est-ce qu'on peut résister à l'espionnage exercé par les entreprises américaines à partir du moment où on exerce nous-mêmes, où on utilise nous-mêmes les services américains. Donc là, la réponse, eh bien, du coup, elle va venir à ta question indirectement. La réponse, c'est construisons des systèmes français, européens, picards, peu importe, comme on veut, mais en tout cas, créons des systèmes nous-mêmes qui sont indépendants, justement, d'une autorité étrangère. Alors, étrangère au sens où on n'a pas de contrôle démocratique dessus, on n'a pas de contrôle, nous, en tant que peuple, dessus. Hein. Encore une fois, il m'arrive d'avoir des discussions avec des gens, mais il est inadmissible que les États-Unis aient le droit de regarder ce qui se passe chez Google, etc. Bon, alors on peut en discuter, mais en tout cas, c'est à un moment une décision du peuple américain sur des entreprises américaines. Je ne sais pas si c'est inadmissible, mais en tout cas, il y a une certaine forme de légitimité derrière. Donc, une des réponses, ce serait dans ce cas-là de créer des services alternatifs qui soient eux-mêmes, qui soient eux-mêmes contrôlés par nous en tant que peuple, de point de vue démocratique. Ce qui amène peut-être à ta question. Du coup, ça permettrait aux États qui contrôlent dans le cas de la France, ça permettrait à ce moment-là à l'État français d'exercer un espionnage qu'effectivement, tu as raison, aujourd'hui, il peut très peu exercer puisque, mais il n'y a pas grand-chose à espionner en France en tant que tel. Mais de ce point de vue-là, eh bien après, on peut se reposer la question en tant que démocratie, c'est-à-dire est-ce que l'on souhaite ou pas laisser l'État, et bon, après, est-ce qu'on a la possibilité ou pas, mais est-ce qu'on souhaite ou pas déjà laisser l'État français espionner? Et là, on pourrait beaucoup plus légitimement être d'accord ou pas être d'accord avec ça. Un autre peut-être complément autour de ça, c'est que si on prolonge avec cette réflexion-là, eh bien si à un moment, l'intérêt d'un modèle décentralisé, c'est aussi qu'à un moment, si, y compris on est en désaccord avec l'État français, eh bien on a la possibilité, à un moment sur Internet, de poser ses serveurs à d'autres endroits dans le monde. Et donc, encore une fois, ça crée de ce point de vue-là une diversité dans les possibilités de présenter et d'organiser l'information, ou l'accès à l'information plutôt.
Merci Stéphane. Est-ce que tu souhaites maintenant nous parler de la recentralisation du web, de la prise de pouvoir par les GAFAM ?
Ok, enchaînons alors. Effectivement, on l'a pris comme hypothèse jusque-là, puisque aujourd'hui, j'ai commencé à faire ce cours ou ce type de conférence il y a quelques années, où les choses n'étaient peut-être pas encore aussi évidentes, mais aujourd'hui, le constat est, je pense, partagé par la majorité de la population. On a donc eu, au cours des 10 dernières années, on va dire 10-15 dernières années, une prise de pouvoir qui s'est organisée par donc une poignée d'entreprises états-uniennes au départ. Aujourd'hui, il y a également des gros centres névralgiques qui se créent dans d'autres zones puissantes numériquement du monde, comme la Chine et la Russie. Mais donc, on a à l'origine une prise de pouvoir par ce qu'on appelle communément les GAFAM, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. L'idée qu'on a une poignée d'entreprises, quand je dis une poignée, on est vraiment ici sur, en l'occurrence, sur cinq entreprises. Alors, aujourd'hui, il y en a d'autres, par exemple, comme Netflix qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais en tout cas une poignée d'entreprises, disons moins d'une dizaine ou quelque chose de l'ordre de grandeur d'une dizaine, qui vont à un moment contrôler l'essentiel des services que l'essentiel des gens vont utiliser sur Internet. Alors encore une fois, les deux essentiels sont importants, hein. Tous les gens n'utilisent pas les services des GAFAM, et les GAFAM ne couvrent pas tous les services, mais on se retrouve avec une majorité des utilisateurs qui utilisent majoritairement des services offerts par les GAFAM. On pourra revenir sur le offert, mais de fait, des services gratuits qui, pour la majorité, n'impliquent pas un échange financier. Ça s'est structuré, hein, petit à petit dans le temps. Petit à petit, effectivement, les entreprises ont concentré un maximum de services. Ça dépend un petit peu des modèles qu'il y a eu, mais en tout cas c'était le cas pour Google, hein, qui a fonctionné pas mal par rachat à un moment, enfin on le voit aussi avec Facebook qui a racheté Instagram, etc. Alors peut-être aussi justement pour juste préciser un tout petit peu ça, hein, on peut avoir l'impression parfois d'une diversité un petit peu plus grande. Alors des services comme Google, il y en a beaucoup qui sont précédés de Google quelque chose, donc on se rend bien compte qu'ils sont ensemble, mais il y en a aussi comme YouTube par exemple, dont on ne sait pas forcément aussi évidemment qu'ils participent à la même société. Et donc, comme je le citais, eh bien, par exemple, on a le réseau social Instagram et le réseau social Facebook qui dépendent de la même entreprise. Donc in fine, hein, on le voit, on a une entreprise comme Google qui hiérarchise une grosse partie de l'information, Amazon qui hiérarchise une grosse partie du commerce électronique, Facebook qui trust une partie significative des réseaux sociaux, etc., etc. Apple et Microsoft sont plus positionnés sur les terminaux, avec Apple une politique assez forte de décision de ce que l'on a le droit de consulter ou pas sur les machines qu'il vend, et Microsoft voilà, qui équipe 90% des ordinateurs personnels au monde. Alors, on a à peu près conscience de tout ça aujourd'hui, je pense, donc je ne vais pas forcément re-rentrer dans le détail de cela. En revanche, on peut-être aussi, hein, si tout de même citer, mentionner quelque chose pareil qui n'est pas forcément évident, mais aujourd'hui, ces entreprises sont également les plus puissantes d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont dans les premières places de la quantité de capital dont elles disposent, donc qui sont aujourd'hui des entreprises qui ont non seulement effectivement une capacité d'innovation, en tout cas de création de choses nouvelles extrêmement puissantes, mais elles ont également une capacité, donc parce qu'elles ont beaucoup d'employés, qui leur permettent de beaucoup d'ingénieurs de qualité en plus, qui leur permettent donc de faire des choses qui fonctionnent bien. Et en plus, ils ont une grosse capacité financière, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise fait des choses intéressantes, eh bien, ils ont la capacité de la racheter. Et voire même, un nombre significatif de personnes qui essayent de faire des choses intéressantes ont comme objectif même, hein, donc vont même avoir comme stratégie de se faire racheter par ces entreprises. Donc on a une logique de concentration qui est qui fonctionne par plusieurs angles en quelque sorte. Hein. Elle fonctionne parce qu'on utilise majoritairement ces services. Elle fonctionne parce que quand d'autres en proposent, eh bien, ils ont tendance à être achetés. Elle fonctionne parce que eh bien, plus ces organisations sont puissantes et plus elles ont les moyens elles-mêmes de consolider leur offre. Alors, pourquoi on parle de ça, effectivement ? Alors, pourquoi c'est un sujet ? Je vais être honnête et considérer personnellement également que c'est un problème, mais en tout cas, c'est au moins un sujet. Alors, on en a parlé un petit peu avec la question de la surveillance. Hein. C'est quelque chose qui aujourd'hui est, je pense, pas mal sur le devant de la scène, la question de la surveillance des données personnelles, donc qui nous a été, on va dire, enfin pour lequel il y a eu un électrochoc au moment des révélations donc faites par Edward Snowden, qui a montré que la NSA espionnait massivement le monde entier. Peut-être je peux faire aussi un tout petit peu complément par rapport à tout à l'heure, puisque dans tous les exemples que j'ai pris des exemples d'activistes ou de gens effectivement qui avaient une activité qui méritait en quelque sorte d'être gardée secrète, et quelque chose qu'on entend souvent, c'est moi j'ai rien à cacher. Ce que l'on peut dire aussi, ce qui était intéressant dans les révélations de Snowden, c'est pas que les États-Unis espionnaient des activistes, ça je pense que ça aurait pas choqué une grande partie de la population, mais c'est surtout que les États-Unis espionnaient tout le monde, c'est-à-dire que à un moment il y a une logique d'industrialisation des mécanismes de surveillance qui font que effectivement eh bien on a la possibilité d'avoir des informations sur tout le monde. Et ça, en tant que tel, effectivement, ça pose des questions importantes d'un point de vue des libertés individuelles. Et là, on peut faire le lien aussi avec notre premier extrait hein, d'Edouard Bernays, qui, encore une fois, théorisait dès le début du siècle cette idée qu'à un moment, eh bien, le gouvernement devait légitimement contrôler l'ensemble de la population, et qu'une façon de le contrôler, eh bien, c'est à travers la propagande, donc en faisant en sorte que les idées qui devaient être majoritairement défendues par ce gouvernement devaient être transmise de la façon la plus efficace possible à la population. Ce qui est intéressant également dans le parcours d'Edward Bernays et des GAFAM, c'est le lien entre cette question de la surveillance et la question de la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de ces entreprises, a fortiori par exemple, comme exemple principal Google ou Facebook, fonctionne sur la base de mécanismes publicitaires, c'est-à-dire que l'enjeu est ce qu'on appelle la captation de l'attention, une économie de l'attention. L'enjeu est de suffisamment maintenir les gens devant leur écran et afin d'être en capacité de leur communiquer les publicités les plus précises, les plus efficaces possibles, afin qu'ils achètent des produits. Alors le « afin qu'ils achètent des produits » n'est pas forcément leur préoccupation, sauf qu'effectivement, si on veut que le modèle publicitaire fonctionne, eh bien il faut que les gens qui achètent la publicité, en quelque sorte, aient un retour sur investissement. Donc on a l'ensemble d'une industrie qui va se coordonner, en quelque sorte, pour faire en sorte de s'organiser sur le « capter l'attention des utilisateurs » afin de leur vendre des objets ou des services. Donc ça, effectivement, c'est une vraie question. C'est quelque chose qui questionne significativement le modèle de développement des GAFAM, puisque... Alors, pour plusieurs raisons, encore une fois, puisqu'on peut y voir en tant que tel des techniques de manipulation, et puis également, ce sera l'objet du dernier cours de l'année, mais ça doit nous questionner également sur le rapport à la consommation. On arrive aujourd'hui dans une société dans laquelle une majorité commence à être d'accord pour dire qu'il faudrait qu'on réduise au moins certains types de consommation, eh bien on peut se poser la question du fait que les organisations dominantes ont comme modèle économique, donc chacun de nos usages a comme finalement effet final de produire de la consommation dont on n'aurait pas envie. Ça peut nous renvoyer à un concept assez intéressant, celui de monopole radical posé par Ivan Illich. Alors l'idée du monopole radical, c'est pas exactement l'idée du monopole au sens où une seule entreprise aurait le monopole et donc déciderait pour tout le monde ce qu'elle voudrait qu'elle fasse. Ça, en quelque sorte, c'est quelque chose auquel on est un petit peu habitué. Mais l'idée est un petit peu plus fine. Elle consiste à dire que à partir du moment où un certain nombre d'entreprises, même si elles sont en concurrence, se mettent toutes à proposer en fait un environnement technique homogène, eh bien, cet environnement va commencer à produire des choses qui ne sont pas du tout ce pour quoi il était construit au départ. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant dans la pensée d'Illich. Alors, lui, il prend un certain nombre d'exemples, dont par exemple celui de l'automobile, c'est-à-dire que il nous montre par exemple que la voiture, au départ, est faite pour se déplacer plus rapidement et plus loin. Et puis, en fait, on se rend compte que dans un certain nombre de configurations, eh bien, en fait, la voiture se déplace pas rapidement. La voiture, elle est bloquée dans les embouteillages. La voiture, elle ne permet pas de rendre exactement le service pour lequel elle est faite. Ou pas aussi efficacement, en tout cas, qu'elle le promet, hein. Ivan Illich a fait des calculs assez intéressants dans lesquels il montre que la vitesse de moyenne d'une voiture, eh bien, finalement, est pas si éloignée de celle du vélo. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais si vous prenez l'ensemble du temps que vous devez consacrer à acheter cette voiture, l'entretenir, etc., etc., à perdre du temps dans les embouteillages, et que vous faites la moyenne, eh bien, vous arrivez effectivement à quelque chose de beaucoup plus faible. Alors, je me suis amusé à faire ces calculs. Je ne suis pas arrivé à quelque chose d'aussi rapide que mon vélo, mais je pense qu'en intégrant beaucoup d'autres choses, on peut être pas très, très loin. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi derrière ce concept, c'est que au-delà du fait que la technologie qu'on promeut commence à devenir inefficiente, alors par exemple, encore une fois, le réseau social a pour fonction de mettre en relation des gens, et puis en fait, à un moment, on se retrouve à faire complètement autre chose que ça. Il va entraîner, par exemple, des comportements compulsifs. Le moteur de recherche sert à trouver de l'information, et puis il va avoir à un moment une autre fonction qui est au contraire de faire en sorte qu'une toute petite partie de l'information soit trouvable et pas l'ensemble de l'information. En plus de cela, eh bien, à partir du moment où on va avoir des monopoles radicaux qui vont se mettre en place, eh bien, ils vont empêcher en quelque sorte les comportements qui préexistaient ou les comportements alternatifs. Donc si on revient à l'exemple de la voiture, Illich nous dit non seulement la voiture ne donne pas l'efficacité qu'elle promet, mais en plus elle empêche le fonctionnement du vélo ou le fonctionnement de la marche à pied. Alors encore une fois, on pourrait dire que c'est un peu bizarre, en quoi la voiture empêche le vélo. Eh bien, essayez de prendre votre vélo pour aller d'un point A à un point B en faisant 20 km et vous allez vous rendre compte à quel point la voiture empêche le vélo. C'est-à-dire qu'empêche le vélo, le bon fonctionnement du vélo. C'est-à-dire que les routes ne sont pas adaptées, les voitures roulent trop vite, les voitures sont beaucoup trop lourdes, etc. Le type d'attention que les automobilistes ont vis-à-vis des vélos n'est pas du tout entraîné, donc ils ne sont pas habitués à voir les vélos, etc., etc., etc. Et donc on voit bien qu'une civilisation à un moment de la voiture, eh bien, rend en quelque sorte extrêmement inefficace une civilisation du vélo. On va retrouver la même chose, hein, sur les comportements numériques, et donc effectivement l'existence à un moment de ces monopoles radicaux empêche en quelque sorte ou rend extrêmement complexe d'autres types de comportements. Je pourrais parler assez longuement de tout ça, mais je vais rendre un petit peu la main pour voir s'il y a des questions.
Donc l'effet Streisand, c'est de rendre visible une information anodine en cherchant à la bloquer. Ce que j'ai appelé l'effet Flamby lors d'une causerie où je devais être assis à peu près là, c'est à peu près le contraire. Une information ultra visible. On est dans tel gouvernement de telle planète, dans le cas d'espèce dont on parle, le gouvernement américain, c'est-à-dire le plus puissant du monde, en tout cas c'est ce que disent les journaux. Mais il y a une agression, c'est-à-dire qu'il y a une tentative brutale de faire disparaître un contenu du réseau. On n'est pas du tout dans le même genre d'effet. Le contenu était déjà mondialement célèbre. L'effet Flamby, c'est la défense du réseau face à une agression trop caricaturale. Parce que ce n'est pas un buzz. C'est le réseau qui s'est défendu. Ce sont des gens qui font du réseau qui ont décidé de le défendre. On est sur un mode de fonctionnement très différent. Et pourquoi j'avais appelé ça l'effet Flamby? Parce qu'en fait, essayez d'imaginer, je ne sais pas, la toute puissance, alors on va dire un militaire américain, costaud, Stallone. Et à l'époque où il était, bon, qui part en guerre contre un Flamby au milieu de la cuisine parce que ça fait tache, et il tape dessus. Bon, ben quand Stallone tape sur le Flamby, forcément il y en a sur tous les murs. Au début c'était propre, il y avait un truc au milieu, ça faisait tache, à la fin il y en a partout. Et s'il continue à taper sur tous les petits bouts qu'il voit, il va y en avoir vraiment partout, quoi. Il va avoir repeint la cuisine. C'est ça l'effet Flamby.
Alors, l'effet Flamby, c'est l'effet Flamby de Benjamin Bayard qui présentait cela lors d'une conférence à Passage en Scène en 2011, lors d'une vidéo, voilà, la vidéo est disponible sur vidéo.passageenscène.fr en licence CC BY-SA. Alors, on vous laisse le suspense juste sur l'événement auquel Benjamin Bayard fait référence en parlant de cet effet Flamby. Essayez de le trouver par vous-même et puis on en parlera en fin d'émission. Mais là, Benjamin Bayard, on comprend en tout cas qu'il fait référence à une tentative de censure d'un contenu sur Internet et en l'occurrence d'un site. Alors, La redécentralisation d'Internet, on a compris que c'était donc un enjeu de lutte contre cette censure. Stéphane, tu nous as aussi parlé de surveillance en début d'émission, donc de censure, du souci du modèle économique fondé sur la publicité, de la captation de l'attention qui est entraînée donc, par cette forme de centralisation d'Internet, du monopole radical, de l'empêchement des comportements alternatifs. Alors je voudrais te demander si il y a aussi d'autres raisons de vouloir redécentraliser Internet et le web, et en particulier une qui serait peut-être de l'ordre de la littératie numérique.
Ouais, on a effectivement, tu as raison, c'est pas un point que j'ai mis en avant là. Alors en fait, peut-être que je le poserai pas comme une quatrième raison, mais plutôt comme un moyen. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il me semble, alors j'ai probablement pas fait le tour du sujet, mais il me semble que ces trois points, la question du contrôle des individus, la question du modèle publicitaire et donc de la consommation exponentielle associée, la question de l'autonomie, hein, donc de la capacité à inventer des choses en dehors et à faire des choix en dehors des sentiers battus par d'autres pour nous, on pourrait dire, pour moi sont vraiment les trois points fondamentaux. Du coup, la littératie numérique, c'est peut-être plus un moyen, c'est-à-dire alors, ce qu'on entend par littératie numérique, c'est la capacité pour chaque personne à comprendre comprendre suffisamment le fonctionnement du numérique afin d'en avoir une pensée critique, d'être amené à être en capacité de faire des choix, et puis aussi d'être en capacité de faire. C'est-à-dire que on est là tous les quatre dans ce studio. Si à un moment on se dit on aimerait bien faire tel truc, mais on ne peut pas le faire avec les outils que nous propose Google, on ne peut pas le faire avec les moyens de communication que nous propose Facebook, etc., ou on ne veut pas, eh bien on peut se poser la question de est-ce qu'on peut le faire autrement. Si on n'a aucune connaissance de la façon dont ça fonctionne, on ne voit pas du tout comment il est possible d'imaginer faire autrement. Donc on est contraint en quelque sorte de rester dans le cadre d'un certain nombre de cercles qui ont été posés pour nous. Si au contraire on a une connaissance même superficielle, peut-être comme celle qu'on a donnée au moins en partie à travers ces cours, même une connaissance superficielle, même une connaissance limitée, eh bien on a la possibilité de commencer à imaginer comment construire des morceaux d'objets, comment construire des morceaux de réseau, comment utiliser des outils numériques afin de faire ce que l'on veut. Et puis évidemment, si on n'a pas la capacité de tout faire à nous quatre là dans le studio, eh bien on peut aller chercher d'autres compétences, on peut se former, etc. Mais le point de départ, c'est qu'on a une connaissance suffisante pour être capable en quelque sorte d'imaginer et de remettre en cause les modèles ou les modes de fonctionnement qui sont sur étagère, qui sont directement disponibles à portée de nos mains ou de nos cerveaux.
Merci Stéphane. Alors est-ce qu'il existe quelques initiatives et quelques personnes qui s'occupent justement de redécentraliser Internet ?
Je voulais une question un petit peu plus longue pour avoir le temps de finir de boire, mais enchaînons donc directement sur la quatrième et dernière partie. Alors effectivement, ces préoccupations dont je vous fais part ici, les raisonnements dont je vous fais part ici, eh bien, ils vont trouver leur source, encore une fois, en tout cas au moins en France, au sein des travaux de l'association Framasoft, qui donc, dès 2014, donc un an après les révélations d'Edward Snowden, lance une campagne qui s'appelle donc « Dégooglisons Internet ». Alors, le terme « dégooglisons » pouvait faire croire que l'enjeu n'était de s'attaquer, entre guillemets, ou de proposer des alternatives que à Google. Mais l'idée était bien d'emblée de proposer des alternatives à la majorité de ce qui était proposé par les GAFAM. Et le terme de Google a été gardé parce qu'il était en quelque sorte emblématique. Alors, je lis juste un tout petit extrait d'une BD de G qui était intégrée au premier article de 94 de Framasoft, parce que je pense que ça pose bien l'enjeu. Donc un premier personnage dit « Moirf, mais vous pensez sérieusement arriver à concurrencer Google, c'est ridicule ?» Et le deuxième personnage répond « Non, on veut proposer une alternative ». Et l'exemple qu'il prend, il dit, tu vois, le vélo est une alternative à la voiture, mais on ne peut pas dire qu'il la concurrence. Alors, c'est extrêmement intéressant, hein, cette petite citation d'une BD qui comporte plusieurs planches, parce que d'emblée, ça pose effectivement l'enjeu. L'enjeu n'est pas d'avoir un second Google ou un second Facebook, l'enjeu est bien de se demander si et comment on peut faire autrement, pour toutes les raisons que l'on a citées. Donc, si et comment on peut faire autrement pour échapper au contrôle, pour échapper à la publicité, pour regagner en autonomie, pour développer sa littératie numérique. Framasoft lance ce projet en 2014. C'est un programme qui va durer plusieurs années, qui a toujours cours en quelque sorte aujourd'hui, mais qui va être sur le devant de la scène pendant plusieurs années. Dès 2016, il y a 30 services alternatifs qui sont proposés. Alors, je ne vais pas tous les citer. Il y en a un certain nombre qui commencent à être connus. Mais l'idée, il y avait une petite carte inspirée des bandes dessinées d'Astérix qui avait été posée. Donc l'idée, c'était que en face de chaque grand service détenu ou pas par Google, voilà. Eh bien, l'idée était de proposer une alternative. Donc, je vais pas en citer, je vais pas toutes les citer, mais par exemple, en face de Google Doc, eh bien, on a la possibilité d'utiliser Framapad, qui était donc une installation d'Etherpad. Alors, tout de suite, je rappelle la BD d'avant, est-ce que Framapad, c'est pareil que Google Doc? Ben non, c'est le même rapport que le vélo à la voiture. Ça permet aussi d'écrire des textes de façon collaborative, mais pas de la même façon, pour le meilleur et pour le pire dans certains cas. Donc je vais pas tous les citer, il y en a peut-être d'autres sur lesquels on voudra remettre la lumière un petit peu plus tard, mais même chose pour la prise de rendez-vous, même chose pour la vidéoconférence avec Framatalk, etc. Alors, j'ai pas renoté exactement les chiffres auxquels était arrivé Framasoft à la fin de la campagne, mais on était autour de 60 ou 70 services proposés. C'était assez significatif. Les utilisateurs ont commencé à se compter en millions. Et donc, c'est un projet qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, alors, encore une fois, de façon relativement modeste, mais c'est un projet qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à un moment avec la possibilité, eh bien, de se passer quasi totalement, on va dire même la possibilité de se passer totalement, puisque un certain nombre d'individus l'ont fait, des services des GAFAM, ou alors, pour la majorité des gens qui utilisaient les services de Framasoft, et bien de s'en passer partiellement. Alors, j'ai cité la campagne dégooglisons, on peut je vais faire un tableau de la dégafamisation beaucoup plus large que ça, mais également très rapide. Effectivement, on aurait pu consacrer l'émission complète à parler des alternatives, mais on peut utiliser d'autres navigateurs. Je rappelle que le navigateur Chrome est aujourd'hui un navigateur de Google qui contient une part non libre, à l'intérieur duquel Google peut insérer et insère une partie d'outils qui servent à favoriser les mécanismes de tracking. Aujourd'hui, il y a d'autres navigateurs qui existent, comme Firefox. On a cité également le Tor Browser, donc le navigateur de Tor basé sur Firefox, qui permet en plus de conserver l'anonymat des échanges. Le moteur de recherche, bien entendu, quand on parle de Google, c'est la première chose à laquelle on pense. Donc aujourd'hui, il y a des alternatives comme DuckDuckGo ou Quant. Alors on peut discuter pour chacune de ces alternatives, et on peut le faire quasi systématiquement des enjeux associés. C'est pas à chaque fois, encore une fois, des choses équivalentes, et c'est pas non plus des choses qui ne posent aucun problème eux-mêmes. Par exemple, DuckDuckGo s'appuie beaucoup sur les résultats de Google Search pour présenter ses propres résultats. Donc, en quelque sorte, il ne pourrait pas exister tel qu'il est si Google Search n'existait pas. Donc, tout ça pose des questions à chaque fois. Mais au moins, on a la possibilité de se poser des questions. Pour les outils de chat, on parle souvent de l'instance Mattermost que l'on utilise nous-mêmes ici. J'ai cité Framatalk, j'ai cité Etherpad. Donc, l'ensemble de ces outils et de nombreux autres permettent aujourd'hui d'aller explorer de nouveaux territoires. Conclure cette partie et reprendre le temps de quelques échanges ou quelques compléments que voudront apporter Isabelle et Audrey, je vais mentionner le fait que Framasoft, arrivé devant le succès en fait de la campagne dégooglisons Internet, s'est retrouvé dans une situation un petit peu étrange en quelque sorte, qui était que ça commençait à recréer un centre. Peut-être aussi que ça peut rebondir avec la question qu'on a eue tout à l'heure sur et la France en quelque sorte. Framasoft s'est rendu compte qu'elle commençait à devenir alors un petit centre modeste, mais néanmoins un centre d'usage. On l'a vu aussi là pendant la première crise du Covid, où l'éducation nationale a proposé d'utiliser massivement les services de Framasoft. Donc en quelque sorte, Framasoft devenait ce qu'elle ne voulait pas devenir, c'est-à-dire une sorte de Google numéro 2, encore une fois avec énormément de réserves. Il y a 3 ou 4-0 ou peut-être 6-0 d'écart dans le budget. Hein. Donc on n'est pas du tout en train de parler des mêmes tailles, mais néanmoins, commencer à avoir cette vision-là. Donc pour ça, eh bien, Framasoft, en quelque sorte, a proposé de déframasoftiser Internet et a lancé le mouvement Chaton. Alors le mouvement Chaton, l'idée est de créer un collectif d'hébergeurs alternatifs, etc. Je vous laisserai aller trouver les autres lettres vous-même, mais donc l'enjeu du Chaton, c'est de créer un collectif d'hébergeurs qui, en quelque sorte, vont faire des choses qui ressemblent à celles que font Framasoft, c'est-à-dire proposer des services sur Internet alternatifs aux services dominants, mais du coup alternatifs via aux autres services proposés, y compris par Framasoft. Alors ça peut être des copies des mêmes services, puisque j'ai pas encore prononcé ce mot depuis le début, mais l'ensemble des services qui sont proposés sont basés sur des logiciels libres, donc ça veut dire que les services proposés par Framasoft, eh bien j'ai moi tout seul la possibilité de les copier et de les faire tourner sur des serveurs à moi. Donc voilà, donc un certain nombre d'organisations se sont positionnées pour proposer des services de la même façon que le fait Framasoft. Donc le Chaton est composé aujourd'hui d'une petite centaine d'organisations, donc il y a une centaine d'organisations aujourd'hui en France, et je crois qu'il commence à y en avoir quelques-unes à l'étranger, qui proposent des services alternatifs. Alors deux petites informations pour conclure là-dessus. Sur le site entraide.chaton.org, on peut trouver une synthèse, en quelque sorte, d'une partie des services qui sont offerts, et puis, et surtout... Soit j'arrive à le dire, soit je vais laisser Audrey conclure sur Picassoft peut-être. Tu veux nous parler de Picassoft, Audrey ?
Absolument. Alors Picassoft.net, ouais, écoute, Picassoft.net, c'est surtout Picassoft, c'est un chaton qui a été créé à l'UTC. Alors c'est bien dommage qu'il ne puisse pas en parler tout de suite, mais Stéphane avait créé avec des étudiants de l'UTC ce chaton en 2017. Donc on avait Kian qui avait créé également ce chaton. Et donc depuis 2017, Picassoft, avec des étudiantes de l'UTC, propose des services libres, donc héberge des services libres qui étaient au départ bien offerts en particulier pour les étudiants de l'UTC, mais qui sont ouverts à toutes et à tous. Et puis Picassoft, c'est aussi en premier, mais comme Framasoft, une association d'éducation populaire, c'est-à-dire que Picassoft propose bien réalise des activités de vulgarisation, mais de voilà, d'éducation populaire dans des établissements scolaires ou bien même en ligne ou à l'UTC pour parler justement d'enjeux du numérique et puis des logiciels libres. Donc voilà, il y a toute une démarche aussi très active de débat et d'éducation populaire. Ce n'est pas seulement le fait d'héberger des services libres.
Merci Audrey d'avoir complété pendant ma petite interruption. Et donc effectivement, hein, l'enjeu pour conclure, c'est que ici à Compiègne, à l'UTC, à travers une petite association d'une poignée d'étudiants. Hein, le nombre d'étudiants actifs dans l'association tourne entre 10 et 20 chaque année. Eh bien, il y a la possibilité de construire et d'offrir un petit bout d'Internet, un petit bout de web, et donc des services que l'ensemble de la population va permettre d'utiliser. Et encore une fois, ce que je trouve extrêmement intéressant dans l'initiative Chaton et dans l'exemple de Picassoft, c'est que ça se fait avec très très peu de moyens. On parle ici de quelques centaines d'euros de budget par an. On parle de quelques personnes qui sont voilà en capacité de proposer un petit bout d'Internet qui fonctionne. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'utilisateurs qui vont utiliser, plusieurs centaines en tout cas d'utilisateurs qui vont utiliser des outils comme Mattermost, la capacité à diffuser des vidéos à travers une instance Peertube, un certain nombre des outils sont utilisés, y compris ici dans les enseignements à l'UTC. Donc ça marche pour de vrai et je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Et donc en fait, pour faire un bon effet flambi, il faut que le centre qui émet l'information soit intouchable et donc déplaçable. Ce qui veut dire que les sites miroirs ne peuvent pas, eux, être configurés pour aller chercher à un endroit connu donné, parce que ça crée un point de faille. Cet endroit connu donné, ça va être soit une adresse IP, soit un nom de domaine. Pour obtenir cet effet-là, le plus efficace est probablement d'être sur un mécano où le site émetteur pousse les mises à jour.
Donc on a eu ici la fin de l'extrait de tout à l'heure, hein, de Benjamin Bayard sur ce qu'il a appelé l'effet flamby. Alors ça renvoie à un autre épisode très important effectivement aussi de l'histoire récente d'Internet, donc à travers le site Wikileaks et l'ensemble des révélations qui ont pu être faites à travers ce site. Encore une fois, là on est plus sur l'axe du contrôle de l'information. Et je trouve que c'est vraiment un point. Encore une fois, Internet est né de cette volonté de ne pas avoir un centre qui puisse contrôler l'information. Alors on l'a vu hein, de façon un peu bizarre avec à la fois la volonté des militaires de ne pas avoir un système central vulnérable, la volonté ou en tout cas les mouvements et les représentations hippies des années 60 et donc cette logique de communauté, de capacité à pouvoir gérer les choses sans dépendre d'une autorité centrale. Je trouve qu'il y a voilà il y a vraiment des éléments extrêmement intéressants dans cette façon d'aborder l'organisation de l'information et en quelque sorte et eh bien alors dans le cas de WikiLeaks par exemple ici et eh bien il y a cette volonté cette idée de chercher à défendre cette circulation de l'information. Voilà, donc c'est un sujet qu'on pourrait très largement prolonger. Et d'ailleurs, puisque donc aujourd'hui c'était une émission un petit peu spéciale, eh bien on va retraiter le même sujet, la redécentralisation d'Internet. C'est tombé un petit peu par hasard dans le calendrier, mais du coup c'est pas mal tombé. Donc demain à l'heure normale en WE1 à 12h45, eh bien ce sera Numaël de Framasoft qui viendra vous redire la même chose que moi, mais elle va le dire très différemment avec d'autres exemples, d'autres angles. Donc ça mérite d'être écouté une deuxième fois.
D'ici là, donc vous pourrez retrouver le cours du jour et puis l'émission de demain aussi sur graphite.net et puis sur l'instance Peertube apéry.tube sur la chaîne Upload. On vous invite aussi à aller faire un tour sur librecours.net pour retrouver les supports et puis pour approfondir avec des exercices pratiques. Et puis également, vous pouvez nous retrouver sur team.picasoft.net, équipe WE01, pour échanger avec nous. Voilà. Merci Stéphane, merci Isabelle et Léo. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Upload UTC, Stéphane Crozat, Audrey Guélou.